assure la préfecture. Ah ben alors, on est tranquille. On est tranquille et il va bientôt être l'heure de passer à contre-histoire. Et on en a des histoires et des contre-histoires et des contre-présents aussi à envisager.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Thank you.
Nous disions donc que l'usine où il y a eu un départ de feu le 30 septembre, l'usine de produits chimiques, la STCM, Société de traitement chimique des métaux, au nord de Toulouse, nous disions donc que cette usine était classée Seveso seuil haut. Quesaco. Eh bien, on va voir ce que c'est que les usines Seveso et pourquoi elles portent ce nom. Seveso, c'est une catastrophe qui s'est produite, catastrophe écologique et sanitaire, qui s'est produite en juillet 1976 dans le nord de l'Italie. Un nuage d'herbicides contenant des produits toxiques s'est échappé d'une usine chimique et a contaminé les alentours, provoquant à la fois des hospitalisations pour les enfants des communes voisines, dont celle de Seveso, et la mort de plusieurs dizaines de milliers d'animaux d'élevage. Cette catastrophe, due notamment à l'absence de plan d'urgence préparé par la société responsable de l'usine, est extrêmement médiatisée. Les conséquences environnementales nécessitent une décontamination totale du site et de ses alentours. La disparition temporaire et fortuite des fûts contenant les déchets lors de leur voyage vers leur lieu de destruction occasionne également de forts soupçons de forfaiture de la part des industriels. Les pouvoirs publics européens se réfèrent à cet événement pour créer en 1982 une série de directives afin de prévenir tout risque d'accident majeur sur un site industriel présentant un risque potentiel. Le 10 juillet 1976, un nuage d'herbicides, donc, contenant de la soude caustique et de la dioxine, s'est échappé durant 20 minutes d'un réacteur de l'usine chimique Ikmessa, situé dans la commune de Meda, et se répand sur la plaine lombarde en Italie. Quatre communes, dont Seveso, sont touchées. Le directeur de production, Paolo Paoletti, prévient les maires des communes. Le 12, ou peut-être le 16, suivant les sources, le travail reprend normalement dans l'usine. Après la mise en grève du personnel, le 16 juillet, l'usine ferme le 18. Le groupe Hoffmann-Laroche, dont fait partie la société suisse propriétaire d'Ikmessa, Givaudan, ne communique l'émission de TCDD, produits toxiques hautement toxiques à base de dioxine, ne communique donc cette émission aux autorités que le 19 juillet, alors qu'il a identifié cet agent dès le 14. Jusqu'au 23 juillet, la population continue à vivre dans un milieu contaminé. L'alarme est tirée ce jour par le Centre de recherche médicale de Roche, à Bâle. Ce dernier déclare que la population doit être évacuée, qu'il faut détruire les maisons et enterrer l'usine. À partir du 23 juillet, les premiers habitants sont évacués. Plus de 200 personnes quittent leur maison. Les jours suivants, on se rend compte que la zone touchée est plus vaste et 500 nouvelles personnes sont évacuées. Le directeur de production Paoletti est arrêté. Le directeur général de Givaudan reconnaît qu'il n'existe aucun plan d'urgence. La quantité de TCDD relâchée par l'accident est sujette à de nombreux débats. Selon les différentes études, la quantité estimée de dioxine rejetée à l'atmosphère est comprise entre 0,2 et 40 kg. Cet accident industriel est dû à la surchauffe d'un réacteur fabriquant du 2,4,5-T trichlorophénol, une des fabrications très courantes et très anciennes de Monsanto, entre parenthèses, hein, le 2,4,5-T. Donc, qui libère un nuage toxique contenant plusieurs produits mal identifiés sur le moment. Les experts de Hoffmann-Laroche pensent d'abord qu'il s'agissait seulement de 1,2,4,5 tétrachlorobenzène et de polyéthylène glycol, réactif de départ. C'est seulement au bout de 4 jours, quand apparaissent les premiers cas de chloracné, qu'ils identifient l'agent responsable 2,3,7,8-TCDD, produit plus connu sous le nom de dioxine de Seveso. À l'époque, la connaissance de la toxicité de la dioxine est limitée par l'absence quasi complète de données scientifiques. On sait, en revanche, que l'une des substances libérées est composante des défoliants utilisés au Vietnam par l'armée américaine, le fameux agent orange. La question de danger éventuel pour la santé est rapidement posée. 7 communes ont été touchées. 358 hectares sont contaminés. Dès les premiers jours, les feuilles des arbres jaunissent et les enfants sont atteints de chloracné, affection qui gangrène la peau et nécessite leur hospitalisation. 3000 animaux domestiques sont tués par les émanations et 77 000 têtes de bétail sont abattues. Par ailleurs, les sols agricoles et les maisons nécessite de lourds travaux de décontamination qui commencent en 1982. Le bilan exact sera connu 7 ans plus tard, au moment de l'ouverture du procès des responsables des différentes sociétés incriminées. 193 personnes, soit 0,6% des habitants de la zone concernée, ont été atteints de chloracné, essentiellement des enfants. Aucune n'est décédée. Un petit nombre seulement a gardé des séquelles. La moyenne des cancers et des malformations fœtales n'a pas augmenté de manière significative. La seule victime indirecte fut Paolo Paoletti, le directeur de la production, qui est assassiné par Prima Linea, le groupe proche des Brigades Rouges, le 5 février 1980, en pleine rue. Cet accident, qui a donné son nom depuis à tous les sites de production classés à risque en Europe, il y en a 1249 rien qu'en France, a exposé les dangers des activités industrielles chimiques en milieu urbain. L'incinérateur de Bâle a brûlé en 1985 des déchets toxiques résidus de la catastrophe de Seveso. En août 1982, les déchets chimiques contenant de la dioxine sont enlevés du réacteur en vue du démantèlement des installations et transférés dans 41 fûts pour être envoyés par route à l'usine Siba chimique de Bâle afin d'être incinérés. Leurs traces se perdent après le passage de la frontière à Vintimille et ils disparaissent quelque part en France. On les découvre en mai 1983 à Anguillicourt-le-Sarthe, dans l'Aisne, dans un abattoir désaffecté où ils avaient été transportés illégalement. Ils sont finalement incinérés chez Siba en novembre 1985 devant la presse. La région Occitanie contre 86 sites classés Seveso en fonction des quantités et des types de produits dangereux qu'ils accueillent. 50 établissements sont classés au seuil haut, c'est-à-dire présentant un risque majeur, et 36 en seuil bas, risque important. Après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, en Seine-Maritime, jeudi 26 septembre, et le départ de feu sur le site STCM de Toulouse, lundi 30 septembre, deux sites classés Seveso, rappelons que la région Occitanie abrite 86 sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs à seuil haut ou importants à seuil bas de type Seveso. Je vais vous porter sur la page du podcast toutes les villes et les noms des usines de type Seveso qu'il y a en Ariège, dans l'Aude, en Aveyron, etc., dans toutes dans toute l'Occitanie. Je vais seulement vous détailler ce qui se passe en Haute-Garonne et vous verrez que ça fait déjà pas mal. Alors, à Boussens, il y a Antargaz, Antargaz, évidemment, Seuil Haut, et BASF, Health and Care Product France, Seuil Haut aussi. BASF, Health and Care, ils font des médicaments, mais ça ne les empêche pas de présenter un risque maximum et donc de faire partie de la classification Seuil Haut Seveso. À Cornebarieux, on a Satis Surface Treatment, Seuil Bas. À Dème, AB7 Industrie, Seuil Bas. À Escalquins, il y a Gache Chimie, évidemment Seuil Haut. À Labarthe-Inar, il y a Bio Advanced Energy, Seuil Bas. À l'Espinasse, Total. Ben, Total, on sait qu'automatiquement, c'est Seuil Haut. À Muret, il y a Mecaprotec, dont on reparlera, Mecaprotec Industrie, qui est, paraît-il, Seuil Bas, mais j'en suis pas certaine. Je croyais que c'était Seuil Haut, Mecaprotec. On vérifiera. À Portet, vous avez l'Île de France, à Seuil Haut. À Saint-Alban, Tradis Service, Seuil Bas. À Sainte-Foy-Pérolière, la société Étienne Lacroix, que tout le monde connaît, Artifice, Seuil Haut, bien sûr. À Saint-Gaudens, la Fibre Excellence, Seuil Haut. À Toulouse, Esso, Seuil Haut. Esso, STCM, Seuil Haut. Et on a vu qu'ils sont bien Seuil Haut. C'est chez eux qu'il y a eu le départ de feu le 30 septembre. Et puis évidemment, à Toulouse, il y a Ariane Group. Hein. Donc, Seuil Haut, Seuil très, 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 très haut. Voilà donc pour la Haute-Garonne. Qu'est-ce que c'est qu'un site classé Seveso? Quel impact pour les habitants qui vivent à proximité? Ces questions se posent. Alors que l'usine Chimirec, qui vient de recevoir l'autorisation préfectorale d'installation, alors que l'usine Chimirec inquiète toute la population du nord de Muret. Alors donc, Seveso, c'est l'usine, la ville italienne où s'est produit l'accident en 1976 avec rejet massif de dioxine dans l'environnement. Et donc, depuis partout en Europe, tous les sites dangereux portent ce nom. D'abord, mise en place de deux dispositifs, le PPRT, plan de prévention des risques technologiques. Ce plan est censé maîtriser l'urbanisation autour de l'installation classée Seveso. Ensuite, il y a le PPI, plan particulier d'intervention, qui définit l'organisation des secours en cas d'accident grave. Des exercices ont lieu régulièrement. Les riverains sont aussi censés avoir reçu un guide de prévention dans leur boîte à lettres. Une alerte est déclenchée par une sirène qui retentit pendant plusieurs minutes. Il faut s'abriter dans un bâtiment en dur, le plus proche, se protéger, se calfeutrer et écouter la radio pour s'informer de la situation. Il ne faut allumer aucune flamme, éviter de téléphoner, ne pas aller chercher des enfants à l'école car ils seront confinés pour être mis en sécurité dans l'école. Et une question qu'on peut se poser dans notre Occitanie si riche en sites Seveso, pourquoi la centrale de Golfech n'est pas répertoriée Seveso? Eh bien, l'EDF et le gouvernement ont trouvé une parade. C'est pas un site Seveso, ce n'est pas un risque chimique, c'est un risque radioactif. Donc, on le sort de la catégorie Seveso, c'est une autre réglementation qui s'applique, nous dit William Géraud de France Bleu.
Thank you.
vous êtes toujours sur Canal Sud. Et nous sommes passés à Contre-Histoire. Et nous revenons à l'histoire et à l'avenir de la Haute-Garonne et en particulier du Muretin, avec l'actualité Chimirec. Alors, vous savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, que l'association Envie Mur s'oppose depuis l'enquête publique du printemps 2018 au projet d'installation d'une usine de traitement de déchets dangereux dans la zone sans souci à Muret, au milieu des habitations, des commerces, des centres de loisirs et d'autres sites classés. Elle n'a cessé, avec les citoyens, les élus du bassin muretin, les associations, d'alerter les services de l'État sur la dangerosité, l'inutilité, le mépris du principe de participation des citoyens représenté par le projet Chimirec Socodélie à Muret. Or, le préfet de la Haute-Garonne a osé le 1er juillet 2019, à l'ouverture des vacances, quand tout le monde est parti, il a signé pour Chimirec l'autorisation d'exploiter. Et pourtant, monsieur le préfet Guyot a donc engagé sa responsabilité alors que le permis de construire est toujours refusé par le maire de Muret. À Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, un projet similaire a été refusé par le préfet du département début 2019, pour les mêmes motifs que ceux qu'Envie Mur ne cesse de marteler depuis la première enquête publique et que je vais vous détailler. La contre-expertise demandée par le commissaire enquêteur donne raison aux citoyens. Des risques de pollution, d'incendie et d'explosion pour 70 000 personnes des 9 communes concernées, Frouzins, Muret, Pinsaguel, Pin-Justaret, Roc, Roquette, Saubins, Seyss, Villeneuve-Tolosane, pour les enfants de Saubins, les clients du bowling en face du terrain de cette usine, le foyer de réfugiés qu'il y a à la limite de Roc et de Muret. Des risques directs se posent pour la santé, pollution de l'eau, 16 000 habitations et écoliers et travailleurs. Le projet Chimirec est inutile socialement et économiquement car les capacités de stockage et de traitement existent à Toulouse et en Occitanie. On vous a déjà parlé des 3 usines de traitement de produits toxiques qui ont été installées dans la région toulousaine après la ZF. Et évidemment, après un AZF, quand on installe une usine de traitement de produits toxiques, on fait attention aux normes. Hein. Donc ces 3 usines, dont une est à Lafitte-Vigordane et une autre à Saint-Alban, et la troisième, je l'oublie, mais il y en a 3. Ces 3 usines, en plus, fonctionnent à peu près à 50% de leur production, selon leur direction, et ils peuvent absolument absorber énormément de déchets supplémentaires. Donc, quelle que soit l'activité industrielle dans la région, on est capable de faire face, on n'a pas besoin de Chimirec. Le projet de Chimirec est un fiasco pour la création d'emplois. Les emplois créés à Muret sont essentiellement des emplois retirés, c'est-à-dire transférés depuis Carcassonne, où il y a déjà une usine Chimirec. Le PRPGD, le plan régional de prévention et de gestion des déchets de 2019, confirme l'inutilité de cette usine. Et malgré tout ça, le préfet, qui a connaissance de la perte de valeur de tout l'immobilier local, perte de valeur de 30% de tout l'immobilier local, eh bien, le préfet a donc signé. Non à Chimirec, Envie Mur attaque l'arrêté du préfet. Nous l'attaquons devant le tribunal administratif, qui a une procédure très lente, pendant laquelle l'activité de Chimirec peut démarrer, avec l'autorisation donc du préfet. La procédure est très lente et elle est aussi très coûteuse. Alors, l'association Envimur et tous les Muretins, tous les Roquois, tous les gens de Saubins, de Villeneuve, etc., espèrent des adhésions à l'association pour nous aider à nous défendre contre cette horreur, à défendre nos enfants et nos petits-enfants contre cette horreur, en se rappelant que Chimirec a déjà pollué et sinistré le département de la Mayenne, où il y a eu nombre de troupeaux qui ont été conduits à l'écarissage à la suite des pollutions de Chimirec dans les nappes phréatiques et à la suite des trafics qui ont été faits et des malversations au niveau des analyses des résultats de l'usine. Alors voilà, ça c'était pour Muret. Et puis dans quelques instants, nous reviendrons sur la catastrophe de Lubrizol en Normandie et sur l'évolution des contrôles d'État dans ce genre de sites dangereux. Alors nous revenons donc à la catastrophe de Lubrizol en Normandie. Pourquoi ces choses-là arrivent? Tout simplement parce que les contrôles deviennent symboliques quand il y en a. Et je vais vous lire l'article du Monde qui est paru ce samedi donc 5 octobre. La préfecture a autorisé en 2019 l'extension des capacités de stockage de l'usine Seveso Lubrizol sans étude d'impact. On est face à une dégradation préjudiciable du droit de l'environnement. La déclaration de Guillaume Blavette de France Nature Environnement et l'article que je vous lis est de Stéphane Mandard, donc du Monde. L'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre à Rouen a rappelé avec fracas, 18 ans après la catastrophe d'AZF, 31 morts minimum le 21 septembre 2001 à Toulouse, que les Français n'étaient pas à l'abri d'un accident industriel majeur et que le territoire français restait constellé d'établissements à risque. Environ 500 000 installations sont classées pour la protection de l'environnement, ICPE, et 1379 ICPE présentant des risques d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont rangés dans la catégorie Seveso. Parmi ces sites Seveso, 744 sont estampillés seuil haut en raison de la quantité très importante de matières dangereuses qu'ils exploitent. C'est le cas de l'usine Lubrizol. À l'instar des autres sites Seveso, Lubrizol est censé être très surveillé. Or, depuis une dizaine d'années, la simplification de la réglementation sur les ICPE a conduit à desserrer les contraintes qui pèsent sur les industriels. Dernier assouplissement en date, la loi dite ESSOC pour « État au service d'une société de confiance ». Alors je relis ça parce que c'est trop savoureux. La loi ESSOC voulant dire « État » avec un E majuscule s'il vous plaît. L'État, donc, au service d'une société de confiance. Loi ESSOC, d'août 2018. Elle permet au préfet d'autoriser à un exploitant la modification de son établissement sans passer par une autorité environnementale indépendante et une étude d'impact systématique. Ainsi, la préfecture de Seine-Maritime a donné son feu vert à Lubrizol en janvier, puis en juin, pour deux demandes d'extension de ses capacités de stockage de produits dangereux, sans les soumettre au préalable à une évaluation des risques. La première demande portait sur une augmentation de 1598 tonnes de produits stockés sur le site, dont 1436 tonnes de substances inflammables et 36 tonnes à la toxicité aiguë. Celle de juin concernait pas moins de 240 containers, récipients de stockage destinés à être manutentionnés, d'une capacité de 4800 mètres cubes, dont 600 tonnes de substances inflammables et dangereuses pour l'environnement. La préfecture n'a pas répondu aux sollicitations du Monde. C'est inacceptable. On est face à une dégradation préjudiciable du droit de l'environnement, réagit Guillaume Blavette, administrateur de France Nature Environnement, comme on a vu en Normandie. Monsieur Blavette siège au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la CODERST. Il y a quelques années, ce type d'information essentielle aurait été soumis à la consultation du CODERST. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'informations nous passent sous le nez. Il ne faut pas s'étonner ensuite de la défiance vis-à-vis de la parole publique et que les gens ne croient pas à la transparence totale du gouvernement. Témoigne le militant écologique très actif dans la mobilisation citoyenne à Rouen. directrice du Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme à Limoges, Jessica Makoviak, est tout aussi critique. Elle dénonce une multitude de régressions du droit dangereuses pour la protection de l'environnement et des populations. Pour les spécialistes, la première régression remonte à la création en 2009 du régime de l'enregistrement, intermédiaire entre déclaration pour les installations les moins dangereuses et autorisation catégorie des sites Seveso. À la différence de l'autorisation dans le cadre de l'enregistrement, une usine n'est pas systématiquement soumise à une étude d'impact environnemental pour pouvoir fonctionner. Conséquence, le nombre d'ICPE soumises au régime de l'autorisation a chuté, 32 200 en 2014, 25 000 en 2018. Tandis que celui des installations relevant du régime moins contraignant de l'enregistrement a grimpé, de 11 900 en 2014 à 16 000 en 2018. Depuis une ordonnance en 2017, alors l'ordonnance en 2017, ben c'est un gouvernement Macron, hein, même les installations soumises à autorisation ne sont plus systématiquement astreintes à études d'impact, seulement au cas par cas. Le 16 septembre, Matignon annonçait l'élargissement du régime d'enregistrement aux entrepôts allant jusqu'à 900 000 m3. Et trois jours avant l'incendie de Lubrizol, Édouard Philippe annonçait un nouveau chantier de simplification. Un projet de décret dans les cartons depuis un peu plus d'un an prévoit de transférer l'examen au cas par cas des projets aux préfets de région. Une prérogative qui incombait jusqu'ici aux missions régionales d'autorité environnementale des structures indépendantes. Dans un avis rendu en juillet 2018, l'autorité environnementale pointait le risque de divergence d'interprétation et de posture au regard de l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'autorité environnementale, qui pourrait être confiée au préfet. Le dispositif proposé apparaît très complexe, voire illisible, concluait l'autorité environnementale. C'est un bordel sans nom, avec des vrais risques juridiques, résume un fin connaisseur du dossier. No. Run off with my heart into the night. Once I'd have thought you'd never let me go. Now I'm alone after all. I've sat for hours at my table, pouring over maps about our stars. All they would say is that you were always here, and now like a ghost you disappear. Strange how you came like a reef up from the sea, up from the blood in my veins. But no, you've been gone Vous êtes toujours sur Canal Sud. Et nous continuons la lecture de l'article de Stéphane Mandard sur la catastrophe de Lubrizol. Cette vague de simplification était censée raccourcir les délais d'instruction des dossiers pour renforcer les contrôles des installations classées, rappelle Jessica Makoviak. Mais à défaut de permettre un renforcement des contrôles des ICPE, les réformes envisagées depuis 10 ans ont surtout contribué à simplifier la vie des exploitants au détriment de l'exigence de protection de l'environnement et des personnes, décrypte la professeure des universités. Le nombre d'inspecteurs de l'environnement a légèrement diminué. Entre 2016, ils étaient alors 1627, et 2018, où ils ne sont plus que 1607. Celui des inspections a chuté, passant de 30 000 en 2006 à 18 196 en 2018, alors que le nombre d'ICPE est resté le même. Les statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire ne précisent pas la part des sites Seveso concernés par cette baisse, seulement que la directive européenne impose au moins une visite tous les 3 ans. 3 ans. Contacté par Le Monde, le ministère assure que le gouvernement a entrepris des simplifications visant à alléger certaines charges procédurales qui n'étaient pas justifiées et qui mobilisaient de manière croissante les inspecteurs des installations classées aux dépens des contrôles. Il rappelle l'objectif d'une augmentation de 50% des contrôles d'ici 2022 et indique qu'il n'y aura pas de baisse des effectifs l'an prochain. Au sujet de Lubrizol, rien ne peut laisser penser que le site aurait manqué de contrôle, précise-t-on de même source. Selon le ministère, 39 inspections ont ainsi eu lieu depuis le dernier accident de 2013. Une fuite de mercaptan, un gaz très irritant, s'était fait ressentir jusqu'en région parisienne, dont 10 depuis 2017. Les plus récentes remontent à juin et septembre. Le ministère relève enfin, ce qui remonte en juin et septembre, ce sont les contrôles. Le ministère relève enfin que des sanctions ont été prises lorsqu'elles devaient être prises, citant une mise en demeure en 2017, précisément sur le risque incendie. Un risque que les inspecteurs de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL de Normandie, avaient estimé au niveau maximum une fois tous les 10 000 ans. Une fois tous les 10 000 ans, avaient estimé les professionnels de la DREAL. À l'échelon national, le nombre d'arrêtés de mise en demeure est en légère baisse, 2116 en 2018 contre 2280 en 2014. Seules les sanctions administratives ont progressé, 433 en 2018 contre 250 4 ans plus tôt. Mais comme le note Jessica Makoviak, leur nombre reste dérisoire. Dérisoire! Tout comme l'amende de 4000 euros à laquelle Lubrizol a été condamné au civil après l'accident de 2013, estime Gérard Lecor, inspecteur du travail et responsable des questions de santé et de travail à la CGT de Seine-Maritime. Il assure, avec ses collègues, avoir maintes fois alerté le ministère du Travail et la préfecture des risques d'un nouvel AZF sur les sites Seveso de la région. Le slogan du syndicaliste « Lubrizol coupable, État complice » a été repris à toutes les manifestations depuis l'incendie. Quand on donne des peines aussi faibles, c'est comme si on accordait un permis de polluer. Si le patron de Lubrizol avait été poursuivi pour mise en danger de la santé d'autrui et condamné à une amende de 75 000 euros et à une peine de prison avec sursis, comme le prévoit la loi, on n'aurait sans doute pas vécu cette catastrophe aujourd'hui. Signe Stéphane Mandard.
can see you miles away.
Et pour terminer, vous pouvez participer à la journée porte ouverte de l'atelier de la poudrière, que je vous rappelle, qui se tient les 12 et 13 octobre. Et on terminera sur la pensée du jour. La recette des catastrophes, c'est la combinaison de l'imbécilité et du désespoir. Contre l'imbécilité, on ne peut pas grand-chose. Un imbécile instruit restant un imbécile. Le seul moyen de prévenir les catastrophes, c'est donc d'éviter les désespoirs. Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain. On se retrouvera tous les deuxièmes mercredis du mois. À midi, de midi à 15h ou un petit peu plus. Voilà. Merci
this
à vous.
Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
This little light of mine,
this little light of
mine, I'm gonna let it shine,
I'm gonna let it shine.
This little light of mine,
this little light,
I'm gonna let it shine,
let it shine.
This little light of mine,
little light,
I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine,
this little light of mine,
I'm gonna let it shine,
I'm gonna let it shine.
This little light of mine,
this little light,
I'm gonna let it shine,
let it shine.
This little light of mine,
little light of mine,
I'm gonna let it shine,
I'm gonna let it shine, shine,
let it shine, let it shine.
Everywhere
I go,
everywhere,
I'm gonna let it shine.
Everywhere I go,
I'm gonna let it shine.
Let it shine.
Everywhere I go,
I'm
gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine.
Let it shine.
Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine.
This little light of mine.
I'm gonna let it shine.
This little light of mine.
I'm gonna let it shine. Let's see, Kanisa. This little light of mine,
this little light,
I'm gonna let it shine,
let it shine.
This little light of mine,
this little light,
I'm gonna let it shine,
I'm gonna let it shine.
This little light of mine,
I'm gonna let it shine,
I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.